Les voies de service, mercredi 13 février 2019. Bonjour et bonne journée mondiale de la radio. Pour souligner l'événement, nous sommes tous les trois autour de la table aujourd'hui.
Bonjour, on s'est forcé.
Bonjour.
Vous trouvez en forme?
Oui, ben oui, je suis content d'être là.
Et en voix.
Me suis ennuyé.
Merci beaucoup.
Mais alors... Serge a déjà oublié des petites choses élémentaires et rudimentaires de la radio, du genre parler dans le micro.
Ah, oui, c'est vrai. Parler dans le micro, ça arrête.
J'avais tassé ma chaise, j'ai pas tassé le micro. Mes excuses.
Veux-tu parler dans le mien?
Puisque qu'on est là, de quoi vous allez nous parler maintenant que votre micro est devant votre bouche, Serge, aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler de pitounes.
Oh, les pitounes, oui. Des belles pitounes.
C'est demain, la Saint-Valentin.
En tout cas, je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse
c'est juste
sur
pour
ce...
souligner la Saint-Valentin.
Oui.
De votre côté, Daniel?
Est-ce que vous êtes des adeptes des théories du complot?
Oh oui, bon,
à l'occasion.
J'adhère pas aux théories, mais j'adore en entendre parler, par contre.
Dans la première partie, je vais vous parler de CNN qui a présenté la semaine dernière un documentaire sur les circonstances de la mort d'un chanteur très connu.
Je me doute que ça va être très intéressant. Et de mon côté, je vais vous parler en première partie d'un discours qui a été prononcé en Mohawk. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, c'est une belle occasion de parler de la langue Mohawk et de la situation des langues autochtones en général. Et j'y vais tout de suite avec ce sujet des langues autochtones. Et j'ai appuyé sur le mauvais onglet dans mon... ça va très bien. Alors, donc c'est un article de Delphine Young que j'ai trouvé sur le site Espace autochtone de Radio-Canada. Mark Miller plaide pour les langues autochtones lors d'un deuxième discours en Mohawk. C'était publié le 7 février. Alors que le gouvernement a déposé avant le 7 février, le projet de loi visant la protection et la revitalisation des langues autochtones au pays, on en avait parlé plusieurs fois à l'émission, le député Mark Miller, a souligné cette avancée en prononçant un discours d'une quinzaine de minutes entièrement en Kanien-Kehá, la langue de la nation Mohawk. Le projet de loi va rétablir les torts qui ont été imposés aux peuples autochtones. Les langues autochtones et les cultures seront ainsi mieux protégées, a commenté le député de Ville-Marie-le-Sud-Ouest, Île-des-Sœurs. Son intervention a été traduite simultanément par une interprète. Il est revenu sur quelques faits historiques expliquant que si nous n'avions pas formé des amitiés et des alliances avec les peuples autochtones, le Canada que nous connaissons n'existerait pas. Il a également rappelé le rôle important des guerriers autochtones et métis qui ont aidé les forces canadiennes et britanniques à repousser les Américains et à protéger ce territoire pendant la guerre de 1812. Pour le député, tout allait bien lorsqu'une une relation d'égal à égal existait entre le gouvernement et les peuples autochtones. Mais maintenant, en temps de paix, nous semblons avoir cessé de respecter leurs préoccupations. Il a insisté aussi sur les politiques du passé menées par le gouvernement et l'Église qui ont détruit la langue et la culture autochtone. Et c'était d'ailleurs l'objectif, petite parenthèse. Même si le gouvernement a présenté ses excuses, M. Miller estime qu'on n'a pas fait grand-chose pour compenser les traumatismes dont ont souffert les peuples autochtones. Défenseur des 70 langues autochtones qui sont parlées dans le pays, Mark Miller a appelé aux francophones, qui pour lui, les francophones sont bien placés pour comprendre les enjeux que représente la sauvegarde d'une langue. Et ce qu'il nous dit, pour vous qui vous êtes battus pour préserver la langue française, une langue qui semble être en compétition avec l'anglais, il était très poli, ce que je vous dis doit être évident. Son intervention, qu'il qualifie de symbolique, a été saluée par la plupart de ses confrères. Ça fait 2 ans que M. Miller apprend la langue de la nation Mohawk, car il dit avoir toujours voulu la parler. J'ai découvert quelque chose qui est plus compliqué que de simplement énoncer des mots. Je commence à peine à comprendre à quel point la langue est extraordinaire, riche et exceptionnelle. Elle est beaucoup plus compliquée que mes autres langues. Mark Miller avait déjà fait un premier discours en Kanien-Kehá le 1er juin 2017 lors du Mois national de l'histoire autochtone. C'était la première fois que le Mohawk était parlé à la Chambre des communes depuis la Confédération en 1867. Le 28 janvier dernier, le député de Winnipeg Centre, Robert Falcon Ouellet, a prononcé un discours en langue crie à l'occasion de la reprise des travaux parlementaires. Le Mohawk est parlé par moins de 2500 locuteurs, principalement installés au Québec et en Ontario, selon le dernier recensement de Statistique Canada. D'après le secrétariat aux affaires autochtones, la nation Mohawk compte pourtant 16 500 membres, mais la plupart s'expriment en anglais. Et maintenant, c'est à votre tour, Daniel, de nous parler de cette théorie du complot.
Oui, j'appelle ça théorie du complot parce que quand je vois ce genre de situation-là, il me semble que... En tout cas, je vais vous en parler, vous me direz ce que vous en pensez après. L'article que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr qui est paru le 9 février. La CNN revient sur les circonstances troubles de la mort de James Brown. Moi, je pensais qu'il était mort et enterré, on n'en parle plus, puis ça finit là, mais ça a l'air que non. D'après une enquête diffusée mardi dernier sur la chaîne américaine CNN, la mort de James Brown serait encore aujourd'hui enveloppée d'un voile de mystère, tout comme celle de son ex-femme, Adrienne, décédée des suites d'une overdose.
Ah oui, mais quand c'est une overdose, on ne peut jamais savoir si c'était-tu un suicide, un meurtre, un accident.
Il y a toujours un doute qui persiste. Le mythique parrain de la Soul succombait à une crise cardiaque et à des complications pulmonaires le 25 décembre 2006. Encore là, une date louche. Hein? 25, deux jours de Noël, tu meurs pas.
Non, c'est ça.
Noël, tu fais pas ça.
Une coïncidence.
Des circonstances que l'absence d'autopsie laisse d'autant plus floues. Dans le documentaire, le médecin en charge du musicien déclare douter d'une mort naturelle. Il pensait plutôt à une overdose accidentelle ou autre. Accidentelle ou autre. Bon, le autre, déjà, c'est très douteux.
Voilà.
Au moins 13 personnes reliées de près ou de loin à James Brown estiment qu'une enquête autour de sa mort devrait être ouverte ou qu'au moins une autopsie soit pratiquée. Parmi elles, la fille du chanteur, la Rhonda Petty, décédée depuis. Donc,
coudonc, dans des circonstances, on ne dit pas si les circonstances étaient mystérieuses.
Non,
c'était peut-être pour la faire taire.
On finit par croire que là, il y a eu vraiment un complot.
Là, là.
Donc, la première partie du documentaire revient sur les affaires d'agression dont James Brown fut l'objet, en particulier une choriste, une employée et Adrienne Brown elle-même. Jacqueline Hollander raconte également le viol qu'elle aurait subi à l'arrière du van du chanteur en 1988. À cette époque, la musicienne faisait partie de son cercle proche, chantant avec lui sur scène et l'aidant à lever des fonds pour des œuvres de charité. J'étais pas au courant de cette partie-là de sa vie non plus. La deuxième partie du documentaire revient sur la mort d'Adrienne survenue en 1996. Si la piste de l'overdose fut rapidement privilégiée, le reportage revient sur les mois précédant le drame alors qu'elle semblait craindre pour sa vie. De son côté, une source policière affirme qu'elle aurait été tuée par un médecin, dont le nom est tué par respect pour la présomption d'innocence, qui aurait ensuite maquillé le meurtre en accident. C'est drôle, ça ressemble à la mort de Marilyn Monroe et plein d'autres.
C'est vrai, maintenant que vous le dites.
Il y a tout le temps des doutes. Des soupçons appuyés par James Brown lui-même, qui d'après sa quatrième épouse, Tommy Ray, pensait lui aussi qu'Adrienne avait été assassinée. Interrogé, le docteur en question prétend souffrir de la maladie d'Alzheimer et rejette toute accusation.
Prétend!
Oui. Il dit « Je suis sûr de n'avoir rien à voir avec ce que vous me racontez. »
Je suis sûr de n'avoir... Ça fait penser à... C'était quoi? C'est la commission Gomery, là, où tout le monde disait « Je me souviens pas,
effectivement.
Je me rappelle pas.
C'est très pratique. C'est pas pour rien qu'il y
ait Personne n'en a parlé.
Pas pour rien qu'il y ait de plus en plus de cas d'Alzheimer. Je pense que ça devient
une bonne
porte de
sortie. Peut-être que ça fausse la statistique.
Enfin, la troisième dernière partie du film soulève plusieurs questions comme l'absence d'autopsie pratiquée sur le corps de James Brown. Darren Loomer, beau-fils du chanteur, était un de ceux qui pensaient que son beau-père s'était fait tuer. Il a été abattu avant de pouvoir témoigner. Là, on voit...
Ça commence à être vraiment très louche.
Ça commence à s'additionner un peu. Là, on aura beau penser ce qu'on voudra. S'ensuit une série de rumeurs, comme celle d'un second testament, de la cause de sa mort, un empoisonnement peut-être, ou d'une mystérieuse fiole de sang prélevée le soir du décès qui pourrait en déterminer la cause. L'enquête menée par CNN amène l'équipe dans 9 États à consulter des dizaines de milliers de rapports de police et de retranscriptions judiciaires et à interviewer environ 140 personnes. Russell Bocknight, comptable gérant les affaires de James Brown, a fini par obtenir une ordonnance restrictive à l'encontre de l'équipe. Donc, de plus en plus d'affaires louches. Peut-être qu'un jour, on saura si James Brown est décédé de cause naturelle ou non.
Watch me! Watch me! I got it! Watch me! I got it! Hey! I got something that makes me want to shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes it is. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul, and I'm super bad. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice, good God. I jump back, I wanna kiss myself. I got soul, and I'm super bad. Hey, I said I'm super bad. Bridge, come on.
L'énergie contagieuse de James Brown avec la pièce Super Bad.
C'était vraiment un crime, en tout cas, si jamais c'était un meurtre.
Ah.
Merci beaucoup. Et je vais justement vous parler de musique, mais des Grammys. Mais évidemment, ce n'est pas James Brown qui était en nomination, mais plutôt le groupe autochtone Young Spirit qui retient l'attention aux Grammys. C'était un article qui a été publié le 11 février sur le site de ici Radio-Canada. Et donc, c'est ça, on nous parle du groupe autochtone Young Spirit qui a eu droit à un petit moment de gloire quand il s'est spontanément mis à interpréter la chanson cri Circle Dance sur le tapis rouge du gala des prix Grammy dimanche soir à Los Angeles. Co-fondateur du groupe, Jacob Faithful, a expliqué que lorsqu'un représentant des médias leur a demandé sur le tapis rouge s'il pouvait faire une entrevue avec eux, il a plutôt suggéré qu'ils chantent une petite chanson. Et c'est à ce moment que le son de la musique et des chants traditionnels autochtones a commencé à se faire entendre et que des têtes se sont retournées pour voir le spectacle devant le Staples Center. Des journalistes et artistes invités ont à cet instant sorti leurs téléphones et caméras, et probablement c'est la même chose, là, pour prendre une photo ou une vidéo de la formation donnant une prestation en direct. Notre groupe s'appelle Young Spirit pour une raison, a dit Jacob Faithful, Young Spirit, esprit jeune. Nous désirons donner aux jeunes du monde entier l'envie de saisir un tambour et de chanter notre chanson. Il avait un message à transmettre. Tenez-vous fièrement. Soyez fiers de ce que vous êtes, d'où vous venez et de ce que notre peuple est. Les membres de la formation musicale sont natifs du Canada et des États-Unis. Basés dans la communauté Cree de Frog Lake, en Alberta, Young Spirit, Young Spirit compte 16 chanteurs venant de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Arizona et de la Californie. Nous nous sommes rassemblés avec le mandat de défendre notre culture et de la maintenir en vie, a expliqué Jacob Faithful. Leur album, Mewa Sensational Cree Round Dance Songs, était en nomination dans la catégorie du meilleur album de musique traditionnelle. Mais c'est pas eux qui ont remporté le Grammy, malheureusement. C'est finalement le musicien hawaïen Kalani Peaz Noanei, avec plein d'apostrophes là, dans le... entre les lettres, qui a remporté le Grammy. Et j'ai pas pensé de demander à Jean-Sébastien de nous chercher une chanson de cet album, mais peut-être que je vais aller voir ça, puis la semaine prochaine, on en entendra quelques mesures. Excusez-moi, j'avais l'impression qu'on avait fini trop tôt, mais c'est parce que j'ai oublié Serge. Vous êtes tellement habitué que vous ne soyez pas là, Serge.
Ben, c'est
que...
ça. Ben oui.
Voilà, j'ai sauté par-dessus vous. Alors, vous allez nous parler de la pitoune.
Oui. Mais avant, j'aimerais juste. Une question. On parlait du député qui avait parlé dans le premier sujet, là, qui avait parlé en
Mohawk. Oui, Marc Miller.
Mais quand Mme Payette a été intronisée gouverneure générale, elle a parlé en quoi? Elle va parler en...
Elle ne devait pas parler en anglais, non?
Ben non, pas en français, en anglais, puis elle a fait une langue.
Non, ça devait être le français.
C'est une bonne question. On va aller faire des recherches.
Ouais. Je sais pas.
Peut-être, ou en Innu, ou en...
Ouais. En tout cas, alors moi, je vous parle de pitoune. Alors, contrairement à vos esprits mal tournés, c'est pas ce que vous pensez.
Je ne pense à rien du tout.
Ouais. Alors, c'est un article qui était dans la presse de samedi dernier, le 9 février. C'est la fin de la pitoune au Québec. Alors, quand la papetière Kruger de Trois-Rivières aura digéré sa dernière pitoune en février...
C'est de cette pitoune-là.
Oui, la page se tournera définitivement sur ses petits billots de bois et sur un grand pan de l'histoire économique du Québec. C'est un article d'Hélène Baril, on prononce le L... Baril.
Un
chenil, Phil.
Ouais, mais je connais.
En tout cas, Hélène Baril. Et où Hélène Barry? Mes excuses si c'est le. Alors, une pitoune, c'est un terme employé au Québec pour désigner la drave et aussi une femme avenante.
Ah, ça, je ne le savais pas.
Une femme avenante. J'aime ça, une femme avenante.
On en a tous une en tête. Toujours Scarlett Johansson, c'est pas pour vous.
Ça, c'est Wikipédia qui dit ça. Mais est-ce qu'il existe un équivalent masculin de femme avenante, un homme avenant?
Python, non?
Oui, on essaie le python, mais ça marche pas. Un pétard, je pense qu'on dirait.
Un pétard,
mais
ouais.
Ça marche pour une fille aussi. Hein?
Python, en tout cas. Laissons, on ira vérifier sur Google. C'est aussi le nom, évidemment, d'un manège. À la ronde de la pitoune.
Auquel on a déjà dit adieu.
Oui. On s'assoyait dans la pitoune.
Ah, c'était vraiment, moi, c'était mon manège préféré. Surtout quand il faisait très chaud, on avait hâte d'aller dans la pitoune. Ouais.
Mais pour des générations de Québécois, la pitoune a été encore plus que ça. Un paysage, un gagne-pain, un mode de vie. Le bio de bois de résineux de 4 pieds de long est en voie de disparition. Les sociétés papetières n'en veulent plus. La région de la Beauce a livré son dernier voyage de pitoune à la fin de 2018 à l'usine Wayagamack de Kruger à Trois-Rivières. C'est terminé, explique Michel Roy de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce. Kruger délaisse la fabrication de papier journal pour d'autres produits beaucoup plus en demande, explique Jean Majot, porte-parole de l'entreprise. On souhaite sortir du secteur. Tout ça fait en sorte qu'on révise nos processus d'approvisionnement en pâte. Avant Kruger, d'autres papetières ont aussi délaissé le papier journal et plusieurs ont définitivement fermé leurs machines. Les pitounes ont d'abord emprunté les premières voies de transport du Québec, les rivières de la Beauce, de la Mauricie et de l'Outaouais, pour alimenter les usines de pâte et papier. C'était les autoroutes de la pitoune. Oui. Au printemps, en revenant des chantiers, quelques bûcherons intrépides se chargeaient de démêler les amas de bio et d'assurer leur circulation.
Et ça demandait une agilité incroyable.
Puis il y a eu des morts.
Et une bravoure, parce que c'était très dangereux. Non.
Armés de gaffes, en équilibre sur une pitoune flottante, les draveurs étaient les héros méconnus de l'époque. D'ailleurs, dans le téléroman Le temps d'une paix, le mari de Rosanna est mort à la drave.
J'essaie de me rappeler dans quelle émission. Je me rappelais qu'il y avait un personnage qui était mort comme ça. Mm-hmm.
Avec le développement des routes et des chemins de fer, le flottage a été remplacé par le transport par camion et par train. De 1920 à 1960, la fabrication de papier a connu un essor considérable, rappelle l'historien Pierre Poulin, qui est en train d'écrire un livre sur la pitoune. En 1957, la production canadienne représente 70% des exportations mondiales de papier journal, précise-t-il. C'est énorme, hein?
Mais oui.
Au milieu des années 60, il y avait 65 usines de papier en activité au Québec. Il en reste à peine une douzaine aujourd'hui. La principale destination des pitounes a été Trois-Rivières, la capitale mondiale du papier journal, jusque dans les années 80. Les draveurs ont disparu définitivement avec la fin du flottage sur la rivière Saint-Maurice dans les années 90. Je pensais pas que ça avait...
Ça fait pas si longtemps que ça,
même. Oui. Et c'est une usine trifluvienne qui a reçu les derniers chargements de pitounes de 4 pieds. À la pitoune de 4 pieds, c'était de l'exploitation forestière à l'échelle humaine. C'était un revenu d'appoint pour les cultivateurs qui, l'hiver, en faisaient de père en fils et de génération en génération, rappelle l'historien Pierre Poulin. La pitoune a été la principale source d'approvisionnement des papetières jusque dans les années 80. Les entreprises ont alors commencé à s'approvisionner auprès des scieries qui, de leur côté, achetaient des billes de 8 pieds ou de 12 pieds de longueur pour en faire du bois d'œuvre. Et on est passé de la récolte manuelle à la coupe mécanisée. Un homme seul avec un équipement simple pouvait en effet couper et sortir du bois des billots de cette dimension. Les propriétaires de boisés valorisaient ainsi la partie de l'arbre qui avait moins de valeur pour le sciage, soit le bas et la cime, coupés en tronçons de 4 pieds. Maintenant que le marché a disparu, les propriétaires de boisés devront trouver d'autres débouchés pour leurs petits bois.
Ben oui, c'est vrai, ça. Ouais.
On travaille là-dessus, affirme le porte-parole de l'Association des producteurs de boisés de la Beauce. La pitoune, c'était un marché que les producteurs aimaient beaucoup, dit Marc-André Côté, parce qu'il leur permettait de nettoyer leur bois et de valoriser les résidus de coupe. Ces résidus de coupe vont rester dans les forêts tant qu'on n'aura pas trouvé un autre moyen de les valoriser. C'est un manque à gagner pour les producteurs, mais aussi pour la société, estime-t-il. Des solutions existent, comme la fabrication de granules ou de biocarburants, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre en forêt privée. Ça prend énormément de volume, explique Michel Leroy. À la Fédération des producteurs forestiers, on pense qu'il serait possible d'implanter dans les régions forestières des usines encore plus innovatrices pour transformer cette ressource en produits d'avenir, ustensiles et laine isolante faits de cellulose, blocs Lego et planches de composite. Et si vous voulez voir une petite photo, regardez ça, le bois là, qui était assez impressionnant.
Oh wow, ça recouvre complètement le cours d'eau. Hein?
Oui.
Comme une mosaïque de bois.
Oui. Avec le gros, un amas, là, une montagne de bois dans au fond.
Oui, merci Serge.
Alors voilà.
mais nous primons la valse du maître Drava.
Qui font pas si chanceux les bio qui flanchent. Ainsi le grand maîtrise la valse. Et pas Paul si chanceux les bio qui dansent. Le maître Drava fait énormément.
Quand la drave s'achève, j'aime bien m'en aller. Guetter les gars trimés sur la rivière. Et sachant qu'au soir, ils s'amèneront veiller. Je songe à la valse de mon maître draveur.
Qui m'envole, si chanceux les billots qui flanchent. Et si le gars maîtrise l'art de la valse, il m'envole, si chanceux les billots qui dansent. Le maître draveur plaît énormément.
J'ai bien dû satisfaire aux vœux de mes parents et sourire aux bourgeois. Faire les grâces de mon maître Drava.
Qui m'envole, si chanceux les billots qui flanchent. Et si le gars maîtrise l'art de la valse. Il m'envole, si chanceux les billots qui dansent. Le maître Drava plaît énormément.
J'ai eu beau prétendant, mais il n'y en a guère qui en savent faire de mon gars de la rivière. Quand la drave est finie, il n'aura qu'à parler pour verser ensemble chez monsieur le curé.
Qui m'envole, dit Jean, sur les billots qui flanchent. Et si le gars maîtrise l'art de la valse, il m'envole, dit Jean, sur les billots qui dansent. Le maître Drava plaît énormément. Vol, dit Jean, sur les billots qui dansent. Le maître Drava plaît
Kate et Anna McGarrigle et la valse du maître draveur, retour vers la fin des années 70. Ça avait été accompagné d'un court-métrage partiellement avec des images d'archives en noir et blanc, partiellement en dessin animé. Ça a joué quelques fois à la télé, je me rappelle d'avoir vu ça. Donc, un beau moment de notre histoire.
Merci, Jean-Sébastien.
Tantôt, Isabelle, quand vous parliez du groupe Young Spirit, il disait que le nom, ça avait été pour donner de l'espoir aux autres jeunes autochtones. Vous saviez que même James Brown, en 1968, avait publié une chanson qui s'appelait « Say it loud, I'm black and I'm proud ».
Ah,
dites-le
ben,
fort, je suis noir et je suis fier.
Définitivement un lien à faire. Alors, c'est ainsi que se termine la première partie de l'émission. On vous revient après une courte pause. À tout à l'heure. Alors, pour cette deuxième partie des voies de service, de quoi vous allez nous parler, Serge?
Quelque chose qui, quand je vous en ai parlé tout à l'heure avant l'émission, sa voix, Louise Aviat, c'est la superstition d'une actrice de théâtre.
Oui, parce que vous m'avez donné un petit indice, entre autres, de ce dont vous allez parler,
Oui.
Et vous allez élucider un mystère
qui
planait. Mm-hmm. Et puis, de votre côté, Daniel?
Je vais vous parler d'une chanteuse très connue qui vient de publier un livre sur sa vie dans lequel elle raconte le suicide de son fils.
Dans des circonstances mystérieuses ou...
Non,
on n'est pas comme
tout
à l'heure.
Mystérieuse. Là,
d'accord. Et de mon côté, je vais vous parler du fameux guide alimentaire dont on parle depuis sa sortie, mais plus particulièrement de ce qu'il dit en lien avec les difficultés de s'approvisionner en aliments frais à bon marché dans les régions du nord du Québec. Alors, la superstition, Serge.
Oui. Alors, c'est un article qui est paru dans la revue Secrets d'Histoire, le numéro 20. C'est très récent, ça date de deux mois à peu près. Un article de Sophie Denis. Alors, la superstition, une actrice de théâtre. Un jour, Musset se mit en colère contre une comédienne qui devait jouer dans Les Caprices de Marianne parce qu'elle refusait de porter une robe verte. Superstitieux, les gens de théâtre?
Mais oui.
Longtemps, la scène et les coulisses ont été régies par des interdits qui désormais font sourire, mais faisaient trembler les artistes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il est des moines pas prononcés. dont un certain mot, je vous parlerai à la fin.
Ben bon. Oui.
Le mot du théâtre est rempli de superstitions d'une autre époque qui ont pendant des décennies fait trembler les comédiens. Porter du verre sur scène, parler de cordes, souhaiter bonne chance, offrir des œillets.
Ah oui, mon Dieu, ça, je vous avoue que j'ai tout fait ça.
Ah oui?
Peut-être pas souhaiter bonne chance, on a ouais. toujours...
Mais les œillets, là, frère, j'aime ça.
Allez, non,
oh, non, c'est...
Ah non.
Des croyances bien tenaces, dont l'origine, pour certaines, est très ancienne. Les méfaits de l'habit vert, le plus connu de tous, porter du verre sur scène attirerait le mauvais œil. La preuve, le jour de sa mort, Molière était habillé en vert pour une représentation du malade imaginaire. C'est la version retenue.
Oui, ça serait à cause de ça qu'il serait mort sur scène.
Bon, fondée sur le goût avéré du comédien pour cette couleur, mais elle n'est pas admise par tous. Christophe Barbier, dans son dictionnaire amoureux du théâtre, cite les écrits de son tailleur qui mentionne que l'habit était fait d'amarante.
Et Colin, ça me dit absolument rien. C'est amarante?
Alors, pourquoi cette rumeur sur le costume vert de Molière? Il faut se souvenir que le vert est l'attribut des sorcières, des démons et même du diable. Ah, ah, ah. Au Moyen-Âge, lors des représentations de la Passion, le comédien qui jouait Judas était vêtu de vert, ce qui le faisait immédiatement reconnaître du public. Certains étaient même prêts à partir par la foule. C'était moins rigolo. Au 17e siècle, le vert était passé de mode dans les salons. Seuls quelques bourgeois ringards en portaient. À l'image de personnages de Molière, tel M. Jourdain, notre bourgeois gentilhomme, ou ce pauvre Alceste misanthrope au ruban vert, ridiculisé par Célimène.
Aujourd'hui, on ne porterait pas du vert parce que s'il y a des effets avec un green screen, le vêtement disparaît.
C'est vrai ça, c'est pas au théâtre, mais au cinéma, effectivement.
De la corde à l'œillet. Il est des mots à ne pas prononcer au théâtre, corde en fait partie. Une survivance qui remonte à l'époque où les machinistes étaient d'anciens marins en fin de carrière. La corde faisait alors référence à la pendaison qui punissait les mutins. Une autre explication, cependant, serait liée à la période où les théâtres étaient encore éclairés aux chandelles. Des cordes étaient reliées à des réservoirs d'eau en hauteur et il suffisait de les tirer pour éteindre un début d'incendie.
Alors, si on disait corde, les gens tiraient sur la corde pour se faire arroser.
C'est ça. Prononcer le mot, c'était risqué.
C'était
risqué d'un arrosage inopiné.
Donc, c'est les ancêtres des gicleurs.
Oui, ben c'est ça à peu près.
Ils auraient dû trouver un safe word, un mot qu'on ne prononce jamais.
De même, il est déconseillé de siffler en scène ou en coulisses.
Ah oui.
Cet interdit vient, lui aussi, du monde de la marine, car les machinistes communiquaient les changements de décor par un jeu codé de sifflement. Siffler, c'est à coup sûr perturber les manœuvres. À moins que le sifflement ne rappelle celui du gaz qui, au 19e siècle, pouvait s'échapper des rampes d'éclairage. Enfin, écoutez bien, si vous voulez vous faire bien voir d'une comédienne, évitez de lui offrir des œillets. Au 19e siècle, quand un directeur de théâtre ne voulait pas renouveler un contrat, c'est la fleur qu'il envoyait dans la loge de l'actrice, tandis que les plus chanceuses recevaient des roses.
Ben oui.
Voilà. La pièce maudite du répertoire. Une pièce du répertoire porte sur elle toutes les malédictions. C'est laquelle, avez-vous, risqueriez-vous?
Aucune idée.
Shakespeare?
J'ai l'impression que je l'ai déjà su.
Macbeth.
Macbeth.
Ouais. Dont il faut taire le nom à tout prix. Elle devient la pièce écossaise. On ne dit pas Macbeth, on va jouer la pièce écossaise.
Ah oui, hein?
Ouais. Il est tout aussi interdit d'en prononcer des répliques, hors représentation ou répétition, juste sur scène. La pièce la plus courte de Shakespeare était souvent montée par des troupes sans moyens, à la va-vite, avec un risque accru d'accident, d'autant qu'il y a de l'action et beaucoup de présence et beaucoup de séquences de nuit. La présence de sorcières sur scène crée un climat particulier. De fait, Macbeth porta souvent malheur. Depuis le tout premier acteur qui tomba mort en coulisses, une émeute à New York en 1849 entre deux troupes rivales qui fit 20 morts, une représentation à Londres en 1942 avec 3 suicides, une autre en 2001 avec la chute de 2 arbres sur scène et 2 acteurs accidentés.
2 arbres sur scène, ils ne devaient pas jouer dans un théâtre.
Il y a encore aujourd'hui de quoi faire réfléchir les comédiens les plus cartésiens. Moi, j'ai une anecdote personnelle, c'est que à la radio du Metropolitan Opera House de New York, qui était diffusé le samedi à l'époque, il y a environ une vingtaine d'années, 20-25 ans, on donnait Macbeth un samedi après-midi en direct à la radio. On a donné le premier acte. On n'a jamais eu le reste de l'opéra à la radio parce que pause, à l'entracte, entre le premier et le deuxième acte, il y a un monsieur au balcon qui s'est élevé pour sortir et il était assis dans la première rangée. Il a perdu pied il est tombé par-dessus la rampe, il est mort. Wow. Ah, ils ont fait venir
en
les
pleine représentation.
Oui, ben c'est-à-dire c'était l'entracte. Alors, ils n'ont pas pu continuer. Oui, la police est arrivée pour l'enquête, tout ça. Ah, ils nous ont annoncé à la radio. Et là, tu as eu toute la légende de Macbeth, évidemment.
Encore une mort suspecte.
Ouais. Alors, en terminant, le mot.
Ben, le mot de Cambronne.
Le mot de Cambronne, le gros merde. Ça porte bonheur. Bon. Il est très malvenu de souhaiter bonne chance à un comédien ou à un spectacle. Un merde venu du fond du cœur sera beaucoup plus apprécié. C'est un vrai porte-bonheur, de bien meilleur augure, référence à l'époque où les véhicules à cheval stationnaient devant le théâtre. Mm-hmm. Beaucoup de crottins signifiaient beaucoup de calèches, soit beaucoup de spectateurs dans la salle.
Mais on ne sait pas pourquoi. Moi, j'avais entendu dire que bonne chance, ça portait malheur.
Oui, oui.
Puis en anglais, ils disent « break a leg ».
Break a leg, casse-toi une jambe.
Oui, casse-toi une jambe. Mais je ne sais pas d'où ça vient.
Ben, toi,
alors...
Ce sera...
il y a quelqu'un qui lève la main en régie.
Oui, oui, j'ai une tentative d'explication que j'avais entendue. Je me souviens pas. Je pensais que c'était Serge qui en avait parlé, mais
peut-être,
je me trompe peut-être de personne. C'est justement en lien avec tous les crottins de chevaux qui étaient là. Casse-toi une jambe, donc plus il y avait de crottins, plus la surface était glissante. Donc plus il y avait des chances qu'on se casse une jambe en glissant dans la merde.
Ah, ben c'est logique. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Les Anglais ont peut-être un côté un peu plus retenu pour les gros.
Oui, ils aiment pas.
Plus violent quand même.
Alors, merci beaucoup, Serge. Et là, vous allez nous parler non pas de superstition, mais d'un vrai événement tragique.
Oui, bien, vous vous souvenez sans doute de la chanteuse Tina Turner.
Oui, ben oui.
Un article que j'ai trouvé dans lefigaro.fr qui date du 8 février 2019. Tina Turner raconte le dernier coup de fil de son fils avant son suicide.
Oh.
La chanteuse d'origine américaine a sorti mercredi un livre autobiographique dans lequel elle se livre sans détour sur sa carrière, ses amours, mais aussi sur la disparition l'an dernier de son aîné, Craig, à 59 ans. Tina Turner avait déjà publié un premier livre de mémoire dans les années 80, simplement intitulé « Moi, Tina ». Elle revient dans les librairies avec un nouveau livre, « My Love Story ». La tigresse raconte sur sa relation très dressée. Par contre, excusez-moi, je recommence, ça se dit mal. La tigresse raconte sur sa relation très destructrice avec son mari et partenaire sur scène, Ike Turner, sur ses problèmes de santé et sur le combat qu'elle a mené pendant ses 60 ans de carrière, quand même.
60 ans de carrière, ben oui.
Pour s'imposer comme véritable symbole de la scène musicale américaine. Icône de Private Dancer, reine du rock'n'roll, reconnue pour sa voix tant que pour ses perruques incroyables, n'en reste pas moins la mère de quatre garçons. Au détour des pages, Tina Turner se confie également sur son deuil et ses regrets concernant son premier fils, Craig, qui s'est suicidé l'année dernière. Lorsque son premier fils, qu'elle a eu à 18 ans, Craig Raymond Turner, se donne la mort d'un coup de pistolet le 3 juillet 2018, la diva se trouve à Paris pour la Fashion Week. Elle lui fait ses adieux en dispersant ses cendres au large de la côte californienne, entourée de sa famille et d'amis, et immortalise l'instant sur les réseaux sociaux. Il est tragiquement mort à 59 ans, mais il sera toujours mon bébé, témoigne-t-elle. Peu avant son suicide, Craig avait téléphoné à sa mère pour entendre ma voix et mon rire, raconte-t-elle. Un appel qui prendra tout son sens après l'annonce du drame. Je pense que c'était sa manière de me dire au revoir, mais à l'époque, je ne l'avais pas réalisé.
Oh, ça brise le cœur.
Oui, oh. Quand même. On pense que ces personnes-là ont toujours une super belle vie parce qu'on les voit avec plein de personnes qui les admirent, mais quand on regarde derrière, souvent, c'est pas très drôle. Mon fils était un enfant très émotif. Une émotivité qui s'expliquerait notamment par les années vécues auprès de son père adoptif, Ike Turner, qui battait sa mère. Tina Turner revient dans son ouvrage sur cette relation toxique depuis le succès qu'ils rencontrent ensemble en 1966 avec la chanson « River Deep Mountain High ». Plein de monde qui pense que c'est une chanson de Céline Dion, ça, mais c'est Tina Turner qui l'avait sortie en 1966. Et l'inoubliable « Proud Mary » en 1969, jusqu'au divorce en 1978, puis la mort par overdose en 2007 de son cauchemar de mari Ike Turner.
Ça devait pas être une mauvaise nouvelle.
Ben, j'imagine que non. C'est un genre de délivrance. Survivante d'un AVC, d'un cancer et d'une greffe de rein, Tina Turner se confie sans réserve. Du haut de ses 79 ans, quand même, La chanteuse semble rester la fière combattante qui l'a hissée au sommet de l'industrie musicale. Elle reste une source d'inspiration pour des générations d'artistes, de Mick Jagger à Beyoncé.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Tina Turner qui nous interprétait le thème de GoldenEye, un des très nombreux films de James Bond, celui-ci paru en 1995, et la pièce est une composition de Bono et de Edge, les deux des leaders de U2.
Merci beaucoup. Et je reviens sur quelque chose qu'on a mentionné tout à l'heure. Serge, vous disiez que Julie Payette avait parlé dans une langue autochtone, et c'était l'algonquin. Et c'était pour souligner l'importance de la réconciliation. J'ai pas trouvé.
Elle fait ça sans texte. Hein.
Oui, c'est ça. J'ai pas trouvé pourquoi l'algonquin en particulier. Ben peut-être parce qu'elle connaît quelqu'un, tout simplement, qui pouvait lui enseigner ce qu'elle avait à dire. Alors, moi, je vous parle du nouveau guide alimentaire canadien qui reconnaît l'insécurité alimentaire dans le Nord. C'est un article qui a été publié sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone et c'était publié le 7 février. C'est pas signé, mais rédigé avec des informations de CBC. Les nouvelles lignes directrices canadiennes en matière d'alimentation reconnaissent l'insécurité alimentaire et les barrières d'accès aux aliments traditionnels dans le nord du Canada. Ces mesures accompagnent le nouveau guide alimentaire canadien publié par Santé Canada. Le document ne propose pas de solution, mais selon Hassan Hutchinson, un porte-parole de l'Agence fédérale, le guide aide le gouvernement à diriger sa politique alimentaire et il peut donc être vu comme un appel à agir. Il faut dire que Santé Canada travaille depuis plusieurs années sur le développement d'une politique et à la mise en place de ressources pour contrer les problèmes d'alimentation comme l'insécurité alimentaire, avec les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapirit Kanatami et du Conseil national des Métis. Avant cette mise à jour, il y avait le guide alimentaire destiné aux Premières Nations Inuit et Métis, dont la dernière version datait de 2007. Les nouvelles directrices en matière d'alimentation parlent aussi d'un contexte autochtone. Celui-ci explique à quel point il peut être difficile de chasser ou d'avoir accès aux aliments traditionnels pour différentes raisons, incluant une déconnexion culturelle causée par les pensionnats. Le passage souligne aussi que manger de la nourriture traditionnelle est sain, même si elle est consommée en petite quantité. J'avoue qu'on a tellement parlé du guide alimentaire, puis de la disparition des produits laitiers
c'est
comme
ça,
groupe.
C'est surtout l'aspect produits laitiers.
Je suis pas allée le lire, mais j'avais pas réalisé qu'on parlait vraiment, carrément, on parle carrément de l'effet des pensionnats autochtones, donc on va loin. Pour Chris King, qui est chef du restaurant de l'Héritage Hôtel, manger dans le Nord peut être frustrant. Il raconte qu'aux Philippines, son pays d'origine, le chou de Chine, que nous on appelle bok choy, coûte moins de 50 cents. Alors, bon, c'est sûr que là on compare aux Philippines, mais malgré à Montréal, c'est pas très cher non plus. Mm-hmm. Alors qu'à Norman Wells, dans les territoires du Nord-Ouest, une poignée de bok choy peut coûter 25 $.
On va opter pour autre chose.
Ça fait cher pour du chou. Quand une fois qu'on l'a fait cuire,
il reste
un tiers de la grosseur, à peu près. Alors, il y a quelques aliments qui peuvent être bons congelés, mais pas tous, écrit le chef, en ajoutant que les prix sont un défi important quand vient le temps de manger sainement. Même ici, on le ressent, ça.
Oui, l'hiver.
On ne peut toujours pas servir beaucoup de légumes dans notre menu ou dans nos repas du jour parce qu'on ne peut pas conserver d'aliments frais. Et il dit aussi, bien sûr, que ça fait augmenter les prix de ses repas. Pour remédier à cette situation, les lignes directrices affirment que les légumes congelés ou en conserve sont aussi recommandés. Lloyd Chico, chef de Cassica dans les territoires du Nord-Ouest, craint que sa communauté soit réticente à la suggestion du guide d'avoir recours à des protéines végétales. Des aliments comme les lentilles, ce genre de choses, les gens n'y sont pas vraiment habitués. Les personnes âgées ne sauront même pas ce que c'est. Megan Scott, c'est vrai aussi ici, là, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le mettre dans le guide, mais c'est vrai qu'on... Là, c'est ça dont on va parler. Megan Scott, qui est diététicien, qui a récemment quitté Inuvik, il convient lui aussi que les images partagées par Santé Canada reflètent les protéines à base de plantes qu'on trouve dans le Sud. Il concède que ce n'est peut-être pas le meilleur moyen pour les habitants du Nord d'obtenir leurs protéines. Dans les contextes nordiques où les protéines animales sont traditionnelles, disponibles et appréciées, si aucune protéine végétale n'est mangée, c'est très bien. Il faut s'adapter à l'endroit où on est. Manger local, c'est aussi très important. Lloyd Chico raconte que les personnes de sa communauté s'étaient tournées vers les repas préparés en épicerie dans les dernières années. Il a aussi constaté une augmentation du nombre de personnes souffrant du diabète de type 2, ce qui l'a frappé. Nous avons besoin de beaucoup d'éducation, selon lui. Le chef porte maintenant une attention particulière à l'alimentation saine et traditionnelle. Il soutient que sa communauté s'est tournée vers les baies, qui sont nombreuses. Le hameau a aussi commencé un jardin communautaire et beaucoup d'habitants de Kakissa mangent des protéines maigres comme du poisson, de la viande de gibier et du poulet. Et pour terminer, comme dernier sujet, vous avez un pot pourri de sujets variés, Serge.
Oui, ben j'en ai quatre. Je ne sais pas si on va avoir le temps de couvrir tout.
Non, je m'en frotte les mains à l'avance.
Alors, le premier, c'est quelque chose qu'on s'est dit, consommez-en 3 litres par jour.
3 litres, et ça ne doit pas être de l'eau, parce que 3 litres.
Daniel?
Aucune idée, 3 litres.
C'est Jean-Sébastien?
De l'air.
Comment? La bière.
Comment?
Non, mais à la blague litres? De la bière, mais non, c'est non. Non.
Comment ça, vous ne répondez pas du chocolat? Vous...
Du chocolat?
3 litres par jour,
mais c'est demain, la Saint-Valentin.
Oh mon Dieu, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. C'est au Moyen-Âge qu'on se faisait en 3 litres. Je m'excuse.
Aujourd'hui, on dirait probablement
distrait.
Pas ça.
J'étais distrait.
Mais c'était peut-être la bière, du coup, non? Ou le vin?
Est-ce qu'il y avait du chocolat au Moyen-Âge?
Non,
ça ne doit pas, non.
Le chocolat, c'est au, arrivé
au... Il y en avait au Moyen-Âge, mais pas en Amérique du Sud.
C'est ça, ouais.
Il
n'y
en avait pas en Europe.
Mexique. Alors, c'est un article dans « Ça m'intéresse, histoire » de novembre-décembre 2018. « Dégustez votre vin comme au Moyen-Âge. » À l'époque, ce nectar sert autant à se désaltérer qu'à cuisiner ou à se soigner. Question quantité, voyez quand même avec votre médecin, nous dit-on. C'est un article de... Guilherme Ringuenet. C'est un prénom, là. G-U-I-L-H-E-R-M-E. J'ai jamais entendu ça. Guilherme.
Ah oui, c'est très beau.
Alors, consommez-en 3 litres par jour. Remplissez votre gourde à ras-bord et ou dirigez-vous vers la première taverne et buvez. Au petit déjeuner, à midi et même au goûter, nos aïeux étanchent leur soif à coups de rasade de vin. C'est la boisson que l'on consomme le plus à raison de 3 litres par jour et par personne. L'eau est considérée comme dangereuse.
Mais c'est vrai que l'eau potable n'était peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Ouais. L'alcool détruit les...
Les cours d'eau sont en effet souillés et donc source de maladies comme la dysenterie. On boit du vin en permanence. Les enfants aussi. Quand ils ont moins de 7 ans, ils ont coupé avec un, c'est coupé avec un peu d'eau. Donc, en haut de 7 ans, ils le prennent.
Fait qu'en bas de 7 ans, ils les contaminaient avec de l'eau, mais après 7 ans...
Non, on le coupait avec de l'eau.
S'ils survivaient.
Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, les enfants pouvaient boire de l'eau contaminée.
Oui, oui. S'ils survivaient après 7 ans,
je pense que ça l'aseptisait, ça le nettoyait un peu.
Ah, peut-être, c'est vrai.
Oui, l'alcool, oui. Mais il faut dire, le degré d'alcool du vin médiéval étant moins élevé, autour de 7 degrés contre 12 en moyenne, pour la production actuelle.
Puis 12, maintenant, c'est difficile à trouver. C'est plus 13.
La consommation reste relativement compatible avec les activités du quotidien, ce qui n'empêche pas les problèmes de santé. Chez les riches, la goutte fait des ravages, tout comme l'alcoolisme chronique qui frappe la population. Au 15e siècle, au moment où l'art du portrait se développe, les peintres, par souci de réalisme, représentent les symptômes de la maladie en reproduisant chez les portraituries les plaques roses qui recouvrent les joues et le nez rouge qui se gonfle et prend une forme irrégulière.
Oui, c'est vrai. Et la fameuse goutte, ça, c'est drôle parce que ça existe encore. Moi, je connais quelqu'un qui est atteint de la goutte.
Ah oui?
Oui.
Puis quand... Aujourd'hui, ça fait drôle. On a l'impression que c'est d'un un vieux livre.
Oui, la boisson, c'est aussi relié à la graisse.
Mais c'est pas juste... Non, c'est ça. C'est pas juste l'alcool. Mm-hmm.
Ensuite, les Vespasiennes. Vous avez déjà entendu ça?
Oui.
Vespasiennes.
C'est des toilettes.
Les toilettes. Et ça monte en 1833, le comte de Rambuteau, fraîchement nommé préfet de la Seine, a pour mission d'assainir Paris. Il compte élargir les rues, moderniser les égouts, planter des arbres. Mais tout ça ne sert à rien tant que ces messieurs continuent de se soulager sur la voie publique. Ah. Il décide donc de faire installer 478 chalets, dit de nécessité, sur les trottoirs parisiens. C'est bien dit, un chalet de nécessité.
Oui, un chalet de nécessité.
Rapidement, ces urinoirs sont appelés colonnes Rambuteau. Vexé, le comte rumine. Va-t-il avoir le comte?
Il ne voulait pas avoir son nom associé à pipi.
Il se souvient de l'empereur romain Vespasien qui, au 1er siècle, décide, pour enflouer ses caisses, de taxer l'urine. Et quand son fils...
C'est
pourquoi pas?
Vient.
C'est un article sérieux, là. Riez pas.
Non, mais taxer l'urine, c'est parce que t'es sûr d'avoir un bon revenu au bout de l'année.
Oui, c'est un revenu assuré.
Oui. Quand son fils Titus se moque de ce nouvel impôt, il lui fait sentir quelques pièces d'or en lui disant « L'argent n'a pas d'odeur. »
Ah, c'est de là que ça vient.
C'est de là que ça vient.
Ben oui. En hommage à cet homme de bon sens, Rambuteau baptise cette toilette publique Vespasienne. Puis je pense que vous avez un petit pour Montréal.
Oui, on les a surnommés brièvement les Camilliennes. Pendant un mandat de Camillien Houde, maire de Montréal, c'était une de ses réalisations les plus marquantes, l'installation de Vespasienne, à l'exemple de ce qui avait existé à Rome et qu'on trouvait à Paris. Il a fait construire des urinoirs et des toilettes à la place d'armes au square Philippe, Victoria et Vigée. Quand on a réaménagé le Square Vigée pour la construction du métro, on devait démolir ce qui restait de la Camillienne qui s'y trouvait. Comme le pavillon d'entrée était de belle architecture, on a décidé de l'installer au Square Saint-Louis du plateau Mont-Royal, que nous, on appelle le Carré Saint-Louis en français, mais qui, il faut dire square. Et dans ce kiosque, maintenant, on vend des fleurs.
Ah.
Alors, ça sent meilleur que...
Ben oui. Il reste combien de temps à peu près, là? Il reste...
2 minutes.
2 minutes? Bon, ben écoutez...
Vous avez une petite dernière?
Oui, l'expression « épater la galerie ».
Ah, oui.
Ah, à la fin du 16e siècle, l'engouement pour le jeu de paume, l'ancêtre du tennis, est tel que, l'on construit des terrains couverts appelés tripots.
Bon, ah oui, je pensais que les tripots, c'est
ouais, où ben moi aussi, ouais, ben un
on
tripot,
jouait
ouais.
aux cartes en buvant de l'alcool frelaté.
Oui, la salle de jeu est bordée par des galeries en surplomb où les spectateurs s'installent pour regarder la partie. Les joueurs multiplient beaucoup et pirouettent pour leur en mettre plein les yeux à l'époque, ils épatent quasi littéralement la galerie, c'est-à-dire les spectateurs.
Bien. Ben, merci beaucoup. Okay. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps pour une autre. Gardez-vous-en pour...
C'est ça, ouais.
Ouais, ça va nous en rester... nous en laisser pour la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui termine cette émission d'aujourd'hui. Si vous êtes un étudiant en vacances, en congé forcé, allez jouer dans la neige. Oui. Quand on est arrivé, c'était des gros flocons. Là, c'était vraiment... Moi, en tout cas, j'aime ça.
C'est beau. Ouais,
je sais que je suis à contre-courant de la population, mais quand il neige, moi, j'ai du plaisir. Tant que ça ne se transforme pas en pluie. Alors, merci beaucoup, Jean-Sébastien, à Liberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci, Daniel Lachance, Serge Bradet et moi-même, Isabelle Falardeau. Je vous souhaite de passer une belle journée. À la semaine prochaine.
Bonne journée. Bye.